Quelle présence de Dieu ce matin. J'en avais presque les larmes aux yeux. Et je prie que nous ayons les larmes aux yeux quand nous sommes en présence de Dieu. Ouais, merci vraiment pour les choix des chants, pour la louange. Merci à tous ceux qui servent. Dieu est là, Dieu est présent. Dieu est présent et veut continuer à œuvrer dans nos cœurs ce matin. J'avais envie de vous parler ce matin de liberté. Je serai plus précis, je crois que le Seigneur a envie de vous parler, de nous parler de liberté. D'ailleurs, le premier chant, je suis dans la joie, car le Seigneur m'a libéré. Ah, j'ai dit Seigneur, merci. C'est le sceau pour ce message. Liberté. N'avez-vous jamais entendu des propos de certaines personnes autour de nous qui, bien qu'elles soient sensibles au message chrétien, certaines d'entre elles, même assistant à des réunions chrétiennes régulièrement, elles avouent un moment à un autre à quelqu'un, à un intime, j'ai peur d'aller plus loin. J'ai peur de perdre ma liberté. Vous avez déjà entendu ça? J'ai peur de perdre ma liberté. Ouais, bonjour Chiné en passant. C'est Chiné là qui est là. Ah, je te découvre là. Voilà. Et au fait, nous chrétiens, baptisés, engagés, depuis plusieurs années, rendons-nous le témoignage d'hommes et de femmes libres. Est-ce qu'on rend le témoignage d'hommes et de femmes libres? Vous savez qu'on a chaque année, où on est fort lié au Château Blanc, ici à Thumery, hein, et on a deux retraites par an dans sa présence. C'est lors de la dernière retraite, début septembre, une des premières images et paroles reçues touchait à la liberté. Quelqu'un avait l'image, c'était Jean, ce qui vient de Jean, il faut le prendre au sérieux, c'est vraiment quelqu'un de mûr et de profond. Il avait eu l'image d'une pièce avec toutes les fenêtres ouvertes. Et la parole était « Sortez de vos lieux confinés. Sortez de vos lieux confinés. Je veux vous faire rentrer dans une liberté nouvelle. » Et cette invitation à la liberté, elle est totalement, elle colle tout à fait avec les Écritures. Dans Galates 5, verset 13, il est dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Et je donne ce verset en version parole vivante. « Oui, mes frères, c'est à une pleine liberté que vous avez été appelés. » Et un peu plus tôt, Galates 5, 1, il est dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Traduction parole vivante, si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Alors pour préparer ce message sur la liberté, je me suis mis à prendre la parole de Dieu, puis à regarder ma concordance, ma Bible online, et puis de repérer tous les versets où il y avait le mot liberté, libre. Et le Seigneur m'a montré trois domaines où nous avons à manifester cette liberté. Je vais m'arrêter sur ces trois domaines et après je prendrai deux versets clés qui sont incontournables au niveau du thème de la liberté. Alors, le premier domaine, on a la réponse dans Éphésiens 3, 12, il est dit « En Jésus, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Là, il faut se mettre dans le contexte d'avant la venue de Jésus. S'approcher de Dieu avec confiance, c'était compliqué. Souvenez-vous au mont Sinaï. Au mont Sinaï, les Israélites disaient que Dieu ne se montre pas. Ils étaient dans l'effroi. Or, nous avons, par Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Parole vivante, c'est dit, dans la communion avec lui, rempli de la foi qu'il nous inspire, nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est incroyable. Est-ce qu'on réalise ça? À tout moment, je peux venir à Dieu sans être tourmenté par me dire, je sens pas que j'ai fait assez pour lui. Je sens pas que j'étais assez studieux. Je sens pas que j'étais assez courageux. Je ne me sens pas assez pur. Que de raisons d'être tourmenté si je ne connais pas le Dieu de la grâce, le Dieu qui m'a délivré de toute condamnation, le Dieu plein de compassion. Parce que c'est ce Dieu-là que je connais. C'est ce Dieu qui m'a été révélé, notamment à la croix. J'ai confiance en sa bonté. Il me suffit avec un cœur sincère de confesser mon péché, de confesser mes failles. J'ai l'assurance de recevoir son pardon et sa paix. Ça paraît basique ce que je dis, mais est-ce qu'on le réalise? Et peut-être pour certains c'est nouveau ça. En Jésus, nous avons la liberté, nous sommes libres de nous approcher de lui avec confiance. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des personnages qui pressentaient ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il le pressentait. Quand il dit dans des psaumes, Dieu ne se plaît pas dans la vigueur du cheval, ni même dans la vigueur de l'homme, mais il se plaît en ceux qui espèrent en sa bonté. Il entrevoyait déjà le salut par grâce. Et dès les premières pages de la Bible, quand on a le sacrifice de Caïn et d'Abel, Caïn qui vient à Dieu en disant « Regarde Dieu ce que j'ai fait, regarde !» Il voulait impressionner Dieu, il n'a pas impressionné du tout. Et Abel, qui a présenté un animal mort avec son sang et qui ressentait le besoin du pardon, lui, il entrevoyait déjà aussi le salut par grâce. Ce Dieu saint, je peux m'approcher de lui parce que je passe par Jésus, son Fils. Parce que je regarde à la croix qui est la démonstration ultime, parfaite de son amour, de sa bonté. Parce que je ne me confie pas en ma propre justice. Combien se confient encore dans leur propre justice? Combien? Mais je me confie en la justice de Dieu accomplie en Jésus. Amen. Dieu me voit à travers son Fils. Il désire honorer ma foi et déployer toute sa bonté à mon égard. Il me voit lavé, pur. Quel privilège extraordinaire. Je suis libre de m'approcher de Dieu avec confiance. Ses ressources, nous dit Paul un peu plus loin, sont inépuisables, infinies. Il tient des trésors de grâce à ma disposition. Voilà, un. Je suis libre de m'approcher de Dieu avec confiance. Deux, c'est Romains qui nous donne la réponse. Romains 6, 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Alors de qui parle-t-il, Paul? Est-ce qu'il parle de celui qui a expiré, qui est vraiment mort et enterré? Non, hein, vous l'avez compris. Non, il désigne celui qui, suite à sa nouvelle naissance, il est passé par les eaux du baptême, le baptême par immersion tel que pratiquait l'Église primitive. Hein, dans l'Église primitive, où le croyant était complètement plongé dans l'eau pour être en quelque sorte enseveli. Beaucoup parmi nous sont passés par le baptême par immersion. Et je crois qu'une parole ce matin que le Seigneur nous dit en rapport avec cette liberté, c'est « Souviens-toi de ton baptême. » Parce que tu as signifié ta mise en liberté. Tu as signifié ta mise en liberté. Il signifiait ta mise en liberté. Alors là, si tu veux montrer une image, voilà, je crois que j'ai juste une image, c'est tout là, cette fois. Mais peut-être certains n'ont jamais assisté à un baptême par immersion. D'autres ont assisté. Je regardais ce matin, j'étais sensible à ça. J'ai essayé de retrouver une vieille photo de mon baptême. Je sais que j'en ai une, que quelqu'un a pris une photo. Et cette image est floue. Très flou. Et je me dis, mais le souvenir de notre baptême, pour certains, il est flou. Il est flou. Et même les acquis de ce que nous avons signifié là, c'est flou. Ouais. Et je vais vous faire une confidence. Je ne sais même plus la date de mon baptême. Alors là, je m'en veux. Et j'ai dit à Dany, qui est à l'eau vive ce matin, j'ai dit, Dany, informe-toi, là, à l'eau vive, de la date exacte de mon baptême. Je ne l'ai même pas noté. Ah, voilà. Non, non, c'est, vous ne connaissez pas. Hein, c'est quelqu'un anonyme, voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi que le Seigneur m'amène sur le sujet du baptême avec la liberté, mais voilà, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Hein, j'obéis. Voilà. Voyez, le corps entier du croyant est plongé dans l'eau, complètement immergé, puis il ressort. Tout ça pour signifier ce qu'il a vécu dans les jours ou les mois qui ont précédé. Pour signifier sa nouvelle naissance. Pour signifier qu'il y a eu un avant et qu'il y a un après. Une personne née de nouveau est bien passée par la mort. Il est mort à lui-même. Il faut continuer après, hein. Il faut continuer, bien sûr, le vieil homme, comme on dit, hein, il ressurgit, mais... Il est mort à une vie centrée sur lui et sans le Christ. Et il ressort de l'eau pour signifier le résultat de cette nouvelle naissance. Il s'est uni au Christ. Et c'est une nouvelle vie. Il a reçu en lui la vie du Christ, la vie de l'Esprit. Il a reçu en lui la vie du ressuscité qui triomphe du mal, du péché. Ça paraît basique, mais est-ce qu'on réfléchit à ça? Je me souviens de ce soir où, lors de mon service militaire, j'ai prié en Guyane, en compagnie d'un pasteur suisse et en compagnie d'un militaire martiniquais qui m'avait amené au Seigneur. Et toutes les semaines qui ont précédé, j'ai vraiment compris que je ne pouvais pas vivre sans le Christ. Que je ne pouvais pas vivre la vie chrétienne sans le Christ et sans m'unir à lui. Et dans une prière, j'ai uni ma vie au Christ. J'ai dit, allez, viens, ensemble. J'ai reçu sa vie et j'ai vu la puissance de la vie du ressuscité tout de suite. Je suis rentré à la caserne, je chantais des cantiques en montant la garde. J'ai déjà raconté ce témoignage, certains connaissent, mais d'autres ne l'ont jamais entendu. J'étais dans une joie incroyable, dans une paix incroyable. J'avais ce sentiment d'appartenance. Je disais sans cesse, Jésus, je t'appartiens. Tu me connais, je suis précieux pour toi. Et ça continuait dans les soirs qui ont suivi. Et cela m'a conduit, bien sûr, quelques mois plus tard, de retour en métropole. Cela m'a conduit au baptême en 1975. Alors après, bien sûr, il y a eu des moments de tentation, des moments de doute. C'est le propre de l'adversaire, hein, comme Jésus qui était attaqué après son baptême aussi. Nous faire douter de l'authenticité de cette vie nouvelle qu'on a reçue, jusqu'à nous faire croire que nous sommes revenus en prison. L'ennemi veut nous amener à ce qu'on oublie de nous réapproprier chaque jour les acquis de notre nouvelle naissance et de notre baptême. C'est chaque jour qu'on doit se réapproprier ce qu'on a témoigné à notre baptême. Et chaque fois qu'on prend la scène, on doit se réapproprier les bénéfices de notre union avec le Christ. Cette union qui nous a libérés. On revit l'événement de la mort et de notre résurrection avec lui. Il nous a été rappelé dans le week-end, dans sa présence aussi, que l'eau coule seulement du trône de Dieu, l'eau véritable, du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône où ça évoque la croix et la résurrection. Il ne faut pas chercher l'eau ailleurs. Il ne faut pas chercher la puissance ailleurs. La croix et la résurrection sont les fondamentaux sur lesquels nous devons nous appuyer pour vivre la liberté. Le baptême et la scène, ça nous était rappelé pendant la retraite dans sa présence, sont les deux piliers sur lesquels nous devons nous asseoir, avec l'espérance aussi du retour de Jésus. J'avais envie de vous lire un petit passage de Romains 6 dans la version Parole vivante, c'est tellement limpide, pour nous rappeler vraiment que le baptême signifie notre mise en liberté. Voilà, que ça parle à ceux qui sont baptisés, que ça parle à ceux qui sont nés de nouveau, mais pas encore baptisés, et qui pensent, je l'espère, au baptême, que ça parle à ceux qui cherchent la vraie liberté. Ceux qui ont peur de perdre leur liberté, ceux qui ont encore peur de perdre, enfin, peur de Dieu presque. Alors je lis ceci, écoutez bien. Romains 6. Auriez-vous oublié que tous les baptisés font acte de mort au péché, ou ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus, on a été plongés en sa mort. Par le baptême, on a été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela ? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, on a reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau, car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés à sa mort pour mourir avec lui, nous le serons à sa résurrection pour revivre comme lui. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. J'avais envie qu'on proclame ensemble, tous les baptisés ici, tous ceux qui sont nés de nouveau, pas encore baptisés, qui pensent peut-être de proclamer cette réalité. Mais je vais juste faire une prière avant, parce que je vais demander à ce que, dans cette proclamation, le Saint-Esprit agisse et nous ouvre les yeux sur cette réalité de la puissance de la vie du ressuscité qui veut couler en nous. Alors, pour cette proclamation, vous allez répéter juste après moi. Allez, tous les baptisés, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui pensent au baptême, voilà. Je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la vie du ressuscité qui coule en moi. C'est la vie du ressuscité qui coule en moi. Et qui me rend libre du péché. Qui me donne la victoire sur le mal. Amen. Es-tu tenté en ce moment de céder au découragement parce que tu n'as pas la victoire par rapport à un péché ou une quelconque forme de mal? Fais cette proclamation chaque jour. Peut-être va te faire aider avec quelqu'un. Peut-être tu as quelque chose à confesser. Peut-être tu as un pardon à libérer. C'est possible, hein. Bien sûr, tout ça, faut pas le négliger, hein. Mais ne doute pas de la puissance de la vie, de cette vie du ressuscité qui coule dans tes veines. Souviens-toi de ton baptême. Tu es libre du péché. Tu as la vie du ressuscité qui coule dans tes veines. Amen. Troisième domaine où je suis appelé à vivre la liberté. Et on a la réponse là, dans Galates 5.1 aussi. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas de nouveau vous mettre sous le joug de la servitude. Ah, qu'est-ce que c'est que la servitude? Qu'est-ce que c'est? Ça peut être un joug, une règle, une loi inutile. Et en plus qui pèse sur la personne. La servitude est le propre du religieux, le religieux dans le sens négatif. Il y a le religieux dans le sens positif, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui craint Dieu, mais il y a le religieux dans le sens négatif qui est le légaliste. Le légaliste. Les pharisiens étaient les spécialistes pour mettre des servitudes sur le dos des autres. Matthieu 23, il est dit: ils lient des fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Le prophète Ésaïe parle de ces légalistes en disant, pour eux la religion c'est règle après règle, précepte après précepte. Combien dans l'histoire de l'Église, nous voyons que l'Église s'est encombrée souvent de règles inutiles sur les croyants. Et ceci dans toutes les confessions, hein. Dans toutes les confessions, catholiques, protestantes, évangéliques même. L'esprit légaliste n'est pas propre à une église particulière. Il peut être présent dans le message du salut qu'on présente. On laisse entendre que, mais oui, pour être sauvé, il faut vraiment, vraiment, pratiquer telle chose. Et ça voile complètement le salut par grâce. Il peut être présent dans notre spiritualité. Il ne faut pas lever les mains, ce n'est pas correct. Pour la scène, il ne faut pas être d'une autre famille d'église, ce n'est pas correct. Vous voyez, toutes ces règles qui sont inutiles. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut pas, attention qu'il n'y a plus de règles, mais il y a des règles inutiles qui pèsent. Mais attention, le joug qui peut peser sur nous n'est pas seulement une règle inutile, il peut être plus subtil. Ça peut être, je peux être par exemple prisonnier du regard des autres et de ce qu'attendent les autres, au lieu d'être moi-même et de libérer le potentiel particulier qui est en moi. Je me restreins ou je joue même un personnage parce que je ne veux pas décevoir les autres. Je veux répondre exactement à leur attente qui n'est pas forcément juste. Et je vous donne le témoignage d'un couple pastoral que j'ai trouvé là sur internet. Certains connaissent, ils sont chanteurs, Claude et Julia Payan. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ils sont chanteurs, hein. Et c'est un couple pastoral. Alors donc c'est Julia qui parle, l'épouse. Et elle dit ceci. S'affranchir du regard des autres, c'est savoir briser des moules pour éviter d'être brisé par eux. Il a fallu que Claude et moi, un jour, las de jouer un jeu qui ne nous convenait plus, décidions de casser le moule pour que progressivement j'apprenne à libérer et assumer pleinement plusieurs facettes de mon identité qui n'étaient rien d'autre qu'un don de Dieu. Et pendant que mon mari décidait de ne plus être le pasteur trop classique qu'il s'était efforcé d'être pendant plusieurs années, je décidais de mon côté de ne plus être la femme de pasteur trop classique que je m'étais efforcé d'être. Vous voyez ce témoignage, Claude et Julia. Romains 8:15 nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» La servitude est signe que nous sommes dominé par la crainte. Et un autre verset est très proche de celui-ci. D'ailleurs, les mots grecs sont très semblables. De Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Servitude, c'est le mot douleia, et timidité d'Elia. C'est très proche. Et ça nous indique que la timidité, quelque part, ça peut être une servitude. Et c'est un ancien grand timide qui vous le dit. C'était une véritable servitude pour moi. Elle nous tient à servir à la crainte des autres, à la crainte du regard des autres. On vient d'en parler. Et je termine par ces deux magnifiques passages, clés incontournables pour parler de la liberté. 2 Corinthiens 3:17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là et la liberté. Amen. Waouh. Cette parole signifie que plus il y a du Saint-Esprit, plus il y a de liberté. Et plus il y a de liberté, plus il y a de la place pour que le Saint-Esprit s'exprime. Amen. Un bon enseignement sur le Saint-Esprit, et il faut le donner, attention, mais n'est pas le seul gage de sa présence. Il faut aussi la liberté. Le diable va tout faire sur le chemin de notre destinée pour essayer de nous ramener à l'asservissement, nous empêcher de comprendre ce qu'est la vraie liberté de l'esprit. Il veut nous garder asservis. Et le Nouveau Testament, avec toutes les lettres de Paul, montre les multitudes de luttes que Paul avait contre les voleurs de liberté. Oh, il a dû lutter. Ouais. Jacques 1, 25. On a des surprises ce matin avec le visage de Jean-Claude, la réponse de Jacques. Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 2, 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. je ne suis plus sous la loi du « je dois faire ceci, je dois faire cela » ou « je suis sous la loi d'amour ». Je suis adopté. Oh là, il y avait une chanson là-dessus, hein, ce matin encore. Je suis aimé, adopté par le Père, et j'aime donc en retour. Et Robert serait là, il nous dirait, rappelez-vous, sans cesse, soyez sans cesse à l'écoute de la voix du Seigneur qui dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Alors à côté de ce témoignage de Claude et Julia dont je vous ai parlé il y a un instant, j'ai trouvé ce commentaire à propos de ces deux versets magnifiques. Écoutez, c'est Claude Payan, c'est pas Julia cette fois, c'est Claude qui parle. Il dit ceci: la liberté du chrétien doit être une occasion pour lui de mieux obéir à Dieu et non le contraire. Il observe avec joie un précepte parce qu'il vibre en lui et non parce qu'il y est asservi. Plus que de se soucier de certains interdits, le chrétien cherche les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses réellement importantes aux yeux de Dieu, qui demeurent et concernent notre marche dans le seul commandement que nous avons désormais, l'amour. Celui qui aime et connaît Dieu a une loi dans son cœur. Ça n'a souvent été rappelé. Non seulement il l'a, mais il veut l'observer. Il sait qu'il doit faire mourir ses comportements impurs, qu'il doit laisser la compassion se déverser sur les autres. Il le sait, non pas parce que cela lui est imposé à coup de précepte, mais parce que la loi de Dieu est inscrite dans son cœur. La promesse de Jérémie 31-33, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, dans leur cœur. » L'œuvre du Saint-Esprit consiste à nous révéler l'esprit de la loi, la vraie loi, celle du cœur, celle de l'esprit. Et rechercher de plus de liberté est un appel qui se trouve dans nos cœurs. Vous avez cet appel dans vos cœurs? À plus de liberté. Bien sûr, il y a un risque, nous dit Claude Payan. Mais n'y a-t-il pas un plus grand risque à ne pas rechercher cette liberté? Et il rajoute, quand les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants peuvent s'exprimer au sein d'une assemblée, que vous savez que vous pouvez crier, danser, sauter, rouler, tomber, rire, prophétiser, utiliser des couleurs, des bannières, des habits même, sans que quelqu'un ne vous prenne pour fou, il est évident que vous allez être plus ouvert et réceptif à ce que le Saint-Esprit voudra manifester. Et lui, qui ne travaille pas indépendamment de nous, qui s'exprime avec une palette, sera plus libre de le faire. Mais n'oublions jamais que l'esprit qui peut nous surprendre et qui a besoin d'espace pour s'exprimer est toujours un esprit d'ordre quand même. Toujours dans l'ordre. Hein, ouais. Alors, parlons juste un peu du risque, juste un tout petit peu. Attention, la parole de Dieu nous avertit à l'excuse de la liberté. Hein, Galates 5 dit, « Frère, vous avez été à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour. » Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. 1 Corinthiens 10:23, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà. Et il y a ceci qui est rajouté. Certains peuvent utiliser le message de la liberté pour justifier leur débordement. C'est vrai. C'est pourquoi la liberté de Christ ne peut se vivre que par des gens qui agissent avec un cœur sincère et qui cherchent l'intérêt de Jésus avant tout, et non le leur. Plus une personne vit dans la liberté de l'esprit, plus elle se sanctifie avec facilité, avec l'aide du même esprit. Par contre, plus elle est dans la liberté de la chair, plus elle devient esclave de la chair. C'est à cela qu'on reconnaît des chrétiens qui marchent dans la vraie liberté et qui font de la liberté un prétexte. J'en arrive à la conclusion avec ce verset de Romains 8, 20-22, on a chanté le chant glorieux. Quelle présence de Dieu à ce moment-là. L'impression qu'il y avait un ciel qui s'ouvrait. Hein, ouais, le Seigneur est tellement glorieux. Son amour est tellement infini, tellement magnifique. Ça a été dit dans la prière aussi. Et ce verset dit, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, encore, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous voyons là que liberté et gloire vont ensemble. La gloire de Dieu veut se manifester dans la liberté, et notre motivation pour chercher à être toujours plus libre doit être avant tout de toucher toujours plus du doigt la gloire de Dieu. Amen. Cherchons donc cette liberté par plus d'Esprit Saint. Rappelons-nous, l'Esprit Saint, c'est la force, mais ceci, c'est l'amour, c'est la sagesse. Quel équilibre! N'ayons pas peur d'un déséquilibre. Le Saint-Esprit est équilibré. Et témoignons à ce monde de cette liberté qui manifeste la gloire de Dieu. Entendons les soupirs de ceux qui la cherchent ailleurs, cette liberté, ou qui ont peur en Dieu de la perdre. Démontrons par notre vie libérée qu'il est le seul qui apporte la vraie liberté. Amen. On va terminer par la prière. J'ai envie de faire cette prière en deux temps. C'est rare que je suis conduit comme ça, mais je vibrais dans ce sens ce matin. Alors j'obéis à ce que le Saint-Esprit me montre. J'ai l'impression qu'il y a une prière pour ceux qui sont en train de comprendre, par un cheminement depuis quelques semaines, et par ce message peut-être, qu'ils ne peuvent pas se passer du Christ. Ils le comprennent en ce moment, certains. Vous comprenez que sans lui, vous êtes perdus. Sans lui, vous vous sentez en prison. Vous ne vous sentez pas libre. Et vous aspirez à la vraie liberté. Et vous comprenez que c'est seulement avec le Christ que vous allez la trouver. Vous comprenez qu'il vous faut naître de nouveau. Vous sentez peut-être votre cœur battre la chamade, comme moi ce matin il battait. C'était comme si vraiment j'étais à la place de celui qui était au bord comme ça. Et je me rappelais un peu ces premiers temps où je l'étais aussi. Au bord. Au bord, comme si le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Voilà. Il frappe à la porte de votre cœur peut-être. Alors ouvrez-lui la porte. Laissez-le rentrer. Et unissez-vous à lui. Donc à cela, j'invite à faire cette prière avec moi. Dans votre cœur. D'accord ? Dans votre cœur, vous faites cette prière. Fermez les yeux. Seigneur Jésus, j'entends ce matin ton appel à la vraie liberté. Et je comprends ce matin que toi seul peux me la donner. Je soupire après cette liberté. Je reconnais que ma vie sans toi est une folie. Je me repens de cette vie sans toi, qui me rend esclave du péché. Je m'unis à toi ce matin pour recevoir ta vie, ton esprit de vie, ton esprit de liberté. Et je te dis merci. Amen. Je peux redonner cette prière après en écrit. Hein. Et si vous l'avez fait, dites-le à quelqu'un le plus vite possible après. Dites-le à quelqu'un pour libérer en vous cette capacité de témoigner. D'accord ? Alors une deuxième prière pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, qui sont passés par le baptême, par immersion, aussi ceux qui ont l'assurance d'être nés de nouveau sans être encore passés par le baptême, qui y pensent, je l'espère, et qu'ils ont conscience qu'ils doivent ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres. Sortir peut-être d'une situation de confinement et saisir une liberté nouvelle. Alors, cela avec moi, dans votre cœur, faites cette prière. Fermez les yeux, Seigneur Jésus. J'entends ton appel ce matin à plus de liberté. Je me réapproprie ce matin ce que j'ai signifié à mon baptême, ou ce que je vais signifier par mon baptême futur. je me réapproprie mon union avec toi, ma mort au péché, ma nouvelle vie pour toi. Je veux obéir à cette nouvelle loi de liberté dans mon cœur depuis ma nouvelle naissance. Je ne veux pas rester sous le joug de la servitude, ni sous le joug de la timidité, ni bien sûr sous l'esclavage de la chair. Je veux rechercher cette liberté de l'esprit sous le seul commandement de l'amour. Je veux plus d'Esprit Saint. Je veux chercher les choses d'en haut. Et avec joie, je veux laisser de l'espace à l'Esprit Saint pour me conduire vers cette liberté nouvelle. Amen.